Deutsche Welle. Droits et libertés.
L'Algérie, ou plutôt la société algérienne, change, les femmes s'émancipent, le pays réfléchit aux formes que doit prendre ou non la religion dans l'espace public. Il y a quelque temps, vous avez pu suivre un entretien avec un travailleur social de Kabylie. Aujourd'hui, je vous propose un tout autre point de vue, celui de Nawel Ghelal, jeune chef d'entreprise algéroise qui s'intéresse notamment aux questions de genre. Au micro, Sandrine Blanchard, bonjour à tous.
Bonjour, je m'appelle Nawel Ghelal. Je suis directrice d'un cabinet de conseil de formation basé à Alger. On est sur des programmes de renforcement des capacités de l'individu, mais aussi de la société civile. On travaille beaucoup avec les associations, etc.
Au renforcement des capacités, qu'est-ce que ça veut dire ?
Concrètement, c'est tout un programme de formation, donc dédié au développement personnel, professionnel des cadres associatifs. Des formations, communication associative, en GCP, gestion civique de projet, en droit de l'homme, en genre, en fonction donc des besoins et du niveau de l'association.
Quelles sont les différences que vous pouvez constater peut-être aujourd'hui encore entre la capitale, Alger, et des provinces plus éloignées ?
Ben, disons, c'est un peu l'accès à l'information, l'accès à certaines institutions. Il faut savoir qu'à Alger, toutes les institutions publiques s'y ont concentré. Avoir les ambassades, les ministères, tout est concentré vraiment sur Alger. Et donc les gens doivent à chaque fois voyager, faire un voyage, même les hôpitaux en fait.
Alors vous avez dit que l'une des thématiques sur lesquelles vous intervenez, c'est aussi le genre. Donc, c'est-à-dire toutes les questions liées à l'égalité homme-femme. Comment est-ce qu'on aborde ce sujet aujourd'hui en Algérie ?
Justement, moi je suis plus précisément spécialisée dans le renforcement économique des droits de la femme, ou des droits économiques plutôt. Donc c'est l'autonomisation à travers la création par exemple de micro-entreprises. On travaille beaucoup avec des femmes artisanes qui font des choses avec leurs mains, qui ont un savoir-faire manuel et qui réalisent des produits qui sont très inédits, très originaux et qui en même temps ne savent pas comment commercialiser ces produits-là. Donc on leur apprend à créer une micro-entreprise, à s'enregistrer en tant qu'artisane, à devoir en fait payer une assurance, être assurée, recevoir aussi des salaires, des aides de l'État non, aussi.
Et pourquoi est-ce si important pour des femmes d'être autonomes économiquement ?
Écoutez, dans leur village, ces femmes sont pas mal isolées. Elles vivent aussi dans des familles qui sont assez pauvres. La vie est devenue très chère et le mari n'arrive plus en fait à subvenir aux besoins de toute la famille, les enfants, la femme, etc. Et puis, c'est une façon de donner une place dans la société à cette femme qui a un savoir-faire, mais qui n'en est pas consciente. Voilà.
Est-ce qu'il y a encore des régions dans lesquelles ça pose problème que les femmes veuillent créer des micro-entreprises et justement, comme vous le disiez, s'émanciper aussi économiquement ?
C'est de moins en moins, mais effectivement, il reste quelques villes qui sont encore fermées, dans le sud de l'Algérie notamment. Donc il reste effectivement des communautés qui sont un peu fermées à cette question d'émancipation de la femme, mais qui arrivent de l'autre côté à bien subvenir aux besoins. C'est des communautés dont l'homme est plutôt branché commerce, qui arrive à se déplacer, à vendre en fait les productions de sa femme, qui sont par exemple dans le tapis ou dans les vêtements traditionnels, des choses comme ça.
J'assistais hier à une discussion avec différentes femmes du continent africain. Donc c'était Sénégal, Afrique du Sud et Kenya, je crois, leur pays d'origine. Et elles disaient qu'aujourd'hui encore, dans leurs sociétés respectives, qui n'étaient pas du tout les mêmes, elles ne venaient pas du tout du même milieu non plus, ça posait encore un problème à une jeune femme de ne pas être mariée et de ne pas avoir d'enfants à un certain âge. Est-ce que c'est quelque chose qui existe aussi en Algérie ?
Bon, encore une fois, de moins en moins. Bon, moi, je vis essentiellement à Alger, mais je le vois aussi dans d'autres villes. les jeunes filles se soucient de moins en moins du fait de devoir se marier à un âge précoce, à un âge jeune, et d'avoir des enfants. Elles sont de plus en plus émancipées, de plus en plus, entre guillemets, libres. Donc elles sortent étudier, elles font des études à l'université, elles ont accès à des postes d'emploi. Et de l'autre côté, les familles, ce que je vois, moi, sont de moins en moins, de plus en plus ouvertes à la question du travail de la fille. Du coup, la fille, voilà, arrive à gérer sa vie et se voit faire une carrière et pense de moins en moins au mariage, en fait.
Et un autre sujet que vous parliez aussi de droits de l'homme, en ce moment, donc, des accords sont en train d'être négociés entre l'Union européenne et des pays du Maghreb, notamment pour que ces pays du Maghreb retiennent les migrants avant qu'ils ne prennent la mer pour l'Europe. Est-ce que c'est un sujet aussi de discussion à Alger? Est-ce qu'on en parle beaucoup quand on se retrouve entre amis, par exemple, ou pas du tout?
Ça a été un grand dossier qu'on discutait plutôt entre les années 2010-2012, je me rappelle très bien. On a conscience que nos jeunes Algériens et Maghrébins ont tendance à vraiment toujours prendre la mer et essayer d'aller vers l'Europe. Le gouvernement, des acteurs privés, des acteurs associatifs ont toujours essayé, en fait, de faire un travail pour retenir cette jeunesse. Aujourd'hui, on parle plus des migrants qui arrivent chez nous, en fait. On a beaucoup de Syriens sur nos routes, beaucoup de Maliens sur nos routes. Et puis, de l'autre côté, je pense que nos jeunes Algériens, les jeunes Maghrébins en général, se sont désillusionnés un peu de cette Europe. Ils ont un peu vérifier qu'en fait, c'était pas l'Eldorado, qu'on pouvait vraiment vivre une vie très difficile à l'extérieur.
Et vous parliez à l'instant des Syriens, des Maliens. Comment est-ce que la société algérienne les accueille?
Il y a plusieurs choses qui sont en train de se faire pour abriter ces Syriens. Il n'y a pas encore de dispositif clair qui leur permet, en fait, de facilement se retrouver, trouver un travail, entamer des études, etc. Je ne pense pas qu'il y ait un programme mis en place par l'État dans ce sens. Mais par contre, il y a des refuges.
Alors, j'imagine qu'il y a peut-être une empathie plus grande avec les Syriens qui parlent arabe, même si ce n'est pas l'arabe algérien, bien sûr, qui fuit une guerre, qu'avec des subsahariens, par exemple, quand des Noirs arrivent. Est-ce que ça pose encore problème?
Alors, au niveau personnel, non. Je n'ai, honnêtement, à peu près, je côtoie beaucoup de franges de la société algérienne et on n'en discute même pas de cette question de racisme. Comme vous avez dit, on se sent un peu plus proche des Syriens. Comment ça se traduit? C'est qu'on est plus généreux envers les Syriens. Je pense que cette question de racisme, en tout cas au nord, elle ne s'applique pas, mais peut-être dans le sud, oui.
Et encore une question. Comment est-ce que, depuis l'Algérie, on suit ce qui se passe, par exemple, en Tunisie, qui est un pays voisin, après ou depuis la révolution tunisienne? Est-ce que 2011 avait suscité de grands espoirs aussi en Algérie? Et est-ce que ça continue d'intéresser les Algériens?
C'est vrai qu'une bonne partie, disons, des groupes de l'opposition voulaient vraiment effectuer et profiter de cette vague et tenter de changer quelque chose dans le système, dans le gouvernement. Il y a eu toute une série de réformes, le changement de la constitution, etc., qui n'a pas réellement répondu positivement aux attentes des Algériens. Mais de l'autre côté, malgré ces manifestations, malgré ces demandes au changement, bon, via la presse, via les médias, et via aussi les groupes informels, il n'y a pas eu beaucoup d'écho dans ce sens au niveau de la population, au niveau de la société. Comme vous savez, on a vécu une décennie noire dans les années 90 jusqu'à les années 2000. Et honnêtement, historiquement, l'Algérien, l'individu algérien est encore en phase de vouloir retrouver la paix. On n'aurait pas pu faire une deuxième révolution. On est en train d'essayer d'envisager un changement pacifique, en fait.
Comment est-ce que vous abordez le problème de la montée des fondamentalismes religieux en Algérie, justement, pendant la décennie noire? On a connu le GSPC, le FIS, le GIA, qui étaient des mouvements qui se revendiquaient de l'islam et qui ont commis des atrocités, et qui ont donné, pour certains, naissance à des mouvements qui sont encore armés aujourd'hui et qui ne sévissent plus trop sur le territoire algérien, mais parfois dans les pays voisins. Comment est-ce qu'en Algérie, on en parle? On essaie de s'en prémunir aussi?
Je sais qu'aujourd'hui, tout parti religieux est interdit en Algérie. On ne peut pas créer un parti religieux. C'est déjà ça, de fait, par le gouvernement. C'est une manière de préserver la scène politique de tout extrémisme, de tout parti extrémiste.
Mais ça n'empêche pas forcément les idées de circuler.
Donc ça n'empêche pas effectivement les idées de circuler, ça n'empêche pas peut-être des groupes justement de commencer un travail, d'essayer de faire de la propagande des idées extrémistes. Ce que je peux dire, c'est que le gouvernement a mis en place une très forte stratégie antiterroriste. On a des caméras partout, on est un peu suivi partout, disons que le gouvernement est vraiment au courant de tout ce qui se passe dans les moindres recoins de l'Algérie. Et je pense que c'est vrai qu'à un moment, en fait, on n'en voulait plus un peu de cette pression. On voulait la levée de l'état d'urgence. Il y a des barrages partout, on n'en voulait plus, etc. Mais de l'autre côté, c'est quand même une assurance pour le citoyen algérien de voir tous ces policiers dans les rues d'Alger. C'est une certaine assurance, ça procure un sentiment de sécurité. Je pense qu'il y a de plus en plus de liberté dans la pratique de la religion en Algérie. Et en fait, ça doit passer par ça, de toute façon. On doit passer par cette liberté d'action, d'expression, pour qu'on puisse avoir cette paix recherchée. Sinon, si justement on est traqué, par exemple, pour ne pas avoir fait Ramadan, je ne sais pas quoi, là encore, c'est une atteinte à la dignité de l'homme, au droit de l'expression. Et je pense que là, ça pourrait effectivement amener vers des idées extrémistes, des pratiques extrémistes. Voilà.
Un grand merci.
Merci à vous.
C'est la fin de ce magazine. Merci à Nawel Guelel. N'hésitez pas à réagir en nous écrivant à français@dw.com. Salut et à la semaine prochaine. Oh.